Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques.
Bonjour à tous, c'est Dr Agemo qui vous parle sur les ondes du Francophone. Je suis en compagnie de ma collègue Ariane Larrault, la pharmacienne aux soins intensifs que vous commencez à bien connaître. Aujourd'hui, on va avoir une bonne discussion sur tout ce qui fait en préhospitalier. On va insister beaucoup sur l'étude Paramedic 2 qui date un peu, là, finalement, de 2018. Puis on va avoir une réévaluation de toute l'utilisation de l'épinéphrine. Alors, on le sait que depuis des décennies, on utilise l'épinéphrine en arrêt cardiaque. Le Québec, le Canada n'a pas échappé à ça. Il y a très peu d'évidence de l'utilisation de l'épinéphrine en arrêt cardiaque. Par contre, on le fait tous et on le fait en très grande quantité. Alors aujourd'hui, j'ai bien hâte d'entendre ce que Ariane a à dire. Alors bonjour Ariane.
Allô.
Ça va bien?
Oui, ça va.
Parfait. Alors on va commencer tout de suite. En fait, je voudrais savoir, toi, qu'est-ce que tu penses au niveau du Québec, du Canada? C'est quoi la place que l'épinéphrine occupe dans nos ACLS?
Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on prend pour acquis, si on veut. C'est un peu comme considéré comme un standard de pratique. Mais là, comme on a eu l'étude Paramedic 2 qui est sortie en 2018, je pense que ça vient un peu déstabiliser tout le monde parce que c'est peut-être plus un standard, c'est peut-être plus tant que ça un standard de pratique. Ça vient un peu remettre les choses en question. Fait qu'on va en parler plus en détail aujourd'hui. Mais au Québec, en général, c'est sûr que dans le contexte préhospitalier, donc avant l'admission à l'urgence, bien, on n'en donne pas. Les ambulanciers, la majorité, sont pas formés pour donner l'épinéphrine en arrêt cardiaque. Ils peuvent en donner pour des chocs anaphylactiques, mais pas pour un arrêt cardiaque. Mais il y a certains pays où les ambulanciers peuvent le faire. Donc, c'est un peu à se poser la question, est-ce qu'au Québec, on devrait rajouter cette formation-là aux ambulanciers? En intra-hospitalier, bien entendu, on l'utilise quand même assez régulièrement. Donc, les données aussi en préhospitalier peuvent être un peu extrapolées ou on peut les utiliser pour confirmer notre conduite. Finalement, c'est un peu ça. Je pense qu'il faut, je pense que c'est pertinent d'étudier cette question-là parce que, comme tu disais tantôt, il manque d'évidence à ce sujet-là, c'est certain.
Alors, pourquoi nous, là, qui font des soins intensifs, des urgentologues, des médecins de soins, pourquoi c'est pertinent de parler de l'épi du préhospitalier exactement?
Bien, c'est sûr que c'est pertinent dans le sens qu'on le sait, le taux de survie à un arrêt cardiaque en préhospitalier, donc « out of hospital cardiac arrest », qu'on voit souvent dans les textes en anglais, le taux de survie est très bas. C'est autour de 8 à 11 %. Donc, c'est pertinent aussi pour n'importe qui parce qu'on veut essayer d'améliorer ces statistiques-là qui sont très basses. Mais c'est quand même pertinent aussi pour les intensivistes, les urgentologues et tout ça parce que c'est sûr que si on commence à en donner en préhospitalier, on va avoir plus d'admissions probablement à l'urgence, puis on va avoir aussi plus de gestion à faire de ces patients-là qui survivent dans nos lits de soins intensifs. Donc, c'est important aussi pour le outcome, en fait. Donc, si l'épinéphrine est nuisible pour nos patients, puis qu'on doit gérer ces complications-là par la suite, donc c'est bien de savoir est-ce que de donner l'épinéphrine augmente le taux de ROSC, mais il faut aussi savoir... est-ce qu'on augmente le nombre de survivants avec un bon devenir neurologique? Parce que c'est ça, en réalité, qui nous intéresse en tant que intensiviste ou urgentologue ou omnipraticien. C'est par la suite, est-ce que c'est l'outcome à 30 jours, par exemple, qui nous intéresse davantage?
Alors, pour le bénéfice de nos auditeurs, je fais juste rappeler que le ROSC, le terme qu'on va utiliser beaucoup aujourd'hui, c'est le retour à la circulation spontanée cardiaque. Avant de commencer la revue de littérature, Ariane, t'es pharmacienne, fait que je peux pas m'empêcher de te demander que pourrais-tu nous expliquer un petit peu le mécanisme d'action de l'épi, puis pourquoi on utilise l'épi plus que n'importe quel autre vasopresseur en arrêt cardiaque historiquement ou même au niveau physiopharmaco.
Donc, effectivement, c'est une bonne question. C'est une question que je me suis demandé aussi pourquoi ce vasopresseur-là en particulier. Donc, l'épinéphrine, on le sait, là, c'est l'adrénaline en tant que telle. Donc, ça a un effet alpha-agoniste. Donc, ça va faire la vasoconstriction. Donc, c'est surtout ça qu'on va chercher, qu'on veut faire avec l'épinéphrine. C'est d'essayer de reperfuser nos organes en faisant la vasoconstriction. Par contre, quand on va chercher l'effet alpha-agoniste. On va aussi chercher un effet qu'on aime moins, qui est l'agrégation plaquettaire, qui pourrait expliquer en fait pourquoi l'épinéphrine pourrait être nuisible pour le cerveau, parce que ça pourrait aller faire des mini-thrombus qui vont aller nuire à la microcirculation là, de nos organes. Donc ça, c'est un peu la théorie qu'il y a derrière l'effet négatif là, au niveau du cerveau. L'autre raison pour laquelle on est allé plus vers l'épinéphrine, c'est que souvent un arrêt cardio-respiratoire, si on veut, on ne sait pas toujours c'est quoi la cause, surtout en préhospitalier. Est-ce que le patient fait une crise d'asthme? Est-ce qu'il fait un choc anaphylactique? Donc, l'avantage aussi avec l'épinéphrine, c'est qu'il y a un effet au niveau du récepteur bêta. Donc, ça, c'est bénéfique pour les chocs anaphylactiques, entre autres, parce que ça va diminuer les médiateurs qui sont libérés lorsqu'on a une réaction allergique. Puis, ça a un effet bronchodilatateur. Donc, si on a un arrêt qui est respiratoire, une crise d'asthme ou quoi que ce soit, bien, ça va être très bénéfique pour ces sous-groupes de patients-là. Il y a aussi l'effet au niveau de la contractilité du cœur qui pourrait aider théoriquement, mais il faut que notre cœur soit perfusé pour ça. Puis, par contre, ça peut augmenter notre besoin en O2 myocardique. Donc, des fois, nos patients peuvent atteindre le ROSC puis repartir en arrêt cardiaque parce qu'ils vont avoir une arythmie là, une fois que l'épinéphrine va être diffusée partout dans le corps.
Parfait. Merci. C'était bien de faire un petit résumé de ça parce que souvent, on donne l'épi puis la plupart des gens n'ont peut-être pas toutes les notions et l'utilité et la pharmacocinétique du médicament. Comme j'ai dit en début, en ouverture, on était pour parler de paramédic 2. Mais avant de parler de paramédic 2, est-ce que tu pourrais me faire un petit résumé de l'evidence base, là, des études observationnelles puis randomisées contrôlées qui ont été faites dans les dernières années, mettons depuis le début des années 2000?
C'est ça. Initialement, on avait surtout des données observationnelles. C'est certain, c'est plus facile à obtenir là, chez ce sous-groupe de population-là qui est quand même difficile de faire des études randomisées contrôlées, là, compte tenu qu'on parle d'arrêt cardiaque. Mais les données observationnelles, en fait, en résumé, là, démontraient qu'il y avait une augmentation de l'atteinte du ROSC et de la survie en général en utilisant l'épinéphrine. Mais il semblait aussi démontrer un mauvais outcome neurologique à utiliser l'épinéphrine. Malheureusement, les données observationnelles, on ne peut pas vraiment tirer des grosses conclusions avec ça parce qu'il y a beaucoup de biais de sélection. C'est certain que les patients vers qui on va se tourner vers l'épinéphrine, c'est des arrêts cardiaques souvent plus prolongés. Si on veut. Donc c'était important d'avoir des études randomisées contrôlées sur ce sujet-là. On en a trois, en fait, jusqu'à maintenant. On a une étude, on va vous les mettre en référence dans les notes, mais il y a l'étude Olavsvigen, qui est une étude norvégienne. C'était un devis qui était ouvert, malheureusement, qui comparait, en fait, tous les médicaments de l'ACLS versus les soins standards, mais sans l'utilisation des médicaments qu'on a dans l'algorithme de l'ACLS. Puis, ça a démontré une augmentation du ROSC, mais aucun effet au niveau de la survie. La deuxième étude randomisée contrôlée, je vous dirais, c'est la plus importante avant paramédic 2. C'est l'étude Jacobs, qui est une étude australienne, qui ont réussi à inclure 534 patients. Puis, eux, ils comparaient, en fait, l'utilisation de l'épinéphrine à la dose de 1 mg intraveineux aux 3 minutes contre le placebo. Puis, en fait, c'est un peu triste parce que cette étude-là a été arrêtée prématurément parce qu'il y a eu une espèce de gros débat au niveau de l'éthique de cette étude-là en Australie. Donc, effectivement, en 2011, c'est ça, on considérait vraiment que c'était un standard de pratique, puis de faire une étude avec ce devis-là, c'était considéré non éthique.
C'est dommage, par contre, parce que c'est exactement ça que la plupart des gens font, mais malheureusement, ils n'ont pas pu se rendre jusqu'au bout parce que c'est justement ce que les gens font. C'est un petit peu un catch-22, là.
C'est ça. Puis, en fait, ils n'ont pas atteint l'échantillon visé, mais ils ont quand même analysé les données qu'il y avait avec leurs 534 patients. Puis, eux aussi ont montré une augmentation de l'atteinte du ROSC, mais aucun effet sur la survie. Donc là, on est même à se demander, est-ce que l'épinéphrine augmente la survie? Parce que là, ce qu'on a comme données jusqu'à maintenant pour les études randomisées contrôlées, c'est qu'il n'y a pas d'effet à ce niveau-là. Donc, l'étude paramédic 2 était attendue, puis était vraiment pertinente. Surtout qu'il y a eu une autre parution qui était une méta-analyse, en fait, des données des études randomisées contrôlées, incluant les études observationnelles, pour ce qui est du devenir neurologique. Puis cette méta-analyse-là, que je vous mettrai aussi en référence, démontrait qu'il y avait une réduction de la survie des patients avec un bon devenir neurologique quand ils avaient reçu de l'épinéphrine. Donc là, non seulement on est en train de remettre en question est-ce que ça augmente vraiment la survie, mais en plus, on a peut-être des évidences que ce serait nuisible au niveau neuro de donner l'épinéphrine en préhospitalier, en arrêt cardiaque. Donc,
Donc, globalement, avant de parler de l'étude paramédic 2, toutes les évidences qu'on peut voir montrent que oui, l'épinéphrine augmente l'atteinte du ROSC, mais c'est des données contradictoires sur autant la survie à l'admission et peut-être même une réduction de la survie neuro-intacte. C'est bien ça?
Oui, c'est exactement ça. Donc c'est ça. Donc, l'étude paramédic 2 a été publiée finalement en 2018. Avec un devis, honnêtement, bravo, là, chapeau d'avoir réussi à faire une étude comme celle-là. On a réussi à randomiser 8014 sujets, donc c'est une énorme étude. Ils ont fait ça à double insu, contrôlé par placebo. C'est une étude multicentrique qui a eu lieu en Angleterre. Puis c'est ça, ils ont inclus en fait les arrêts cardiaques préhospitaliers soutenus. Ils faisaient une formation là, aux ambulanciers pour savoir comment administrer l'épinéphrine. Puis, ils ont exclu seulement les femmes enceintes, les personnes âgées de moins de 16 ans, les patients là, qu'on suspectait un arrêt, un choc anaphylactique ou une crise d'asthme. Et ils ont aussi exclu les patients qui avaient déjà atteint un ROSC ou qui avaient déjà reçu de l'épinéphrine avant la randomisation. Donc, la validité externe est quand même assez bonne. Ils ont inclus beaucoup de patients. Il n'y avait pas 1001 critères d'exclusion, donc c'est un point positif là, de l'étude.
Oui, puis contrairement à l'étude Jacobs, ils pouvaient se permettre de faire du placebo vu que c'était du préhospitalier puis c'était pas un standard de pratique à ce moment-là.
L'étude Jacobs, c'était aussi contre un placebo, mais c'est vraiment en Australie, ça n'a juste pas passé. Peut-être en Angleterre, ils ont réussi à démontrer que c'était pertinent puis que c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'évidence avant l'étude paramédique, donc que c'était une question qui valait la peine d'être étudié. Mais en Australie, c'est vraiment la politique s'est mêlée de tout ça. Là.
D'accord. Si je me rappelle bien, dans l'étude paramédique, les deux groupes étaient pas mal similaires. Hein? On avait des âges moyens de pas loin de 70 ans. La plupart des patients à 65% étaient des hommes. Il y avait quand même un haut pourcentage de patients inclus qui avaient des rythmes non choquables aux alentours de 78-80%. 70% des patients avaient reçu un RCR par des témoins, donc le bystander effect. Et le délai entre l'appel et l'arrivée des ambulanciers se faisait en un peu moins de 7 minutes. Par contre, le délai entre l'appel et l'administration de la première épi ou du placebo était beaucoup plus long à 22 minutes. Est-ce qu'il y a eu les résultats de ça, de ce 8000 patients-là à groupe contrôlé avec placebo qui semble intéressant?
Oui, donc en fait, on a plusieurs résultats intéressants. Donc, grosso modo, la majorité des résultats étaient en faveur du groupe qui avait reçu l'épinéphrine. Donc, la survie à 30 jours était supérieure chez les patients qui avaient reçu l'épi à 3,2% contre 2,4% dans le groupe placebo. Les auteurs ont calculé un NNT qui était à 112 pour l'intervention. Donc, ça prend, il faut traiter 112 personnes, arrêt cardiaque préhospitalier avec l'épinéphrine pour sauver une personne. Au niveau du ROSC préhospitalier, c'était aussi supérieur avec l'épinéphrine à 36% contre 12%. Puis la survie jusqu'à l'admission à l'hôpital, on était à 24% avec l'épinéphrine contre 8% pour le placebo. Par contre, ce qu'on semble voir dans les données, c'est que les patients qui ont survécu, ceux qui ont reçu l'épinéphrine avaient un moins bon devenir neurologique que ceux qui avaient reçu le placebo.
Justement, le bon devenir neurologique, ils l'évaluaient comment dans l'étude paramédic 2?
Ils ont utilisé le score de ranking modifié. Donc, dans le fond, si on a un score entre 0 et 3, on considère que le patient a un bon devenir neurologique. Donc, 0, c'est aucun symptôme du tout. Donc, le patient sort de là avec le même état qu'il était avant, aucune séquelle. Et un score à 3, c'est une atteinte modérée. Donc, la personne peut marcher sans assistance, mais a besoin d'aide pour faire d'autres activités.
Okay. C'est un équivalent du CPC qu'on utilise, qui est environ entre 1 et 2. Le CPC, Cerebral Performance Category, c'est un équivalent de ça environ.
C'est ça. Donc, pour vous donner des statistiques un peu plus au niveau du devenir neurologique, c'est vraiment l'outcome qui nous intéresse. Malheureusement, il était un outcome secondaire, mais en 2019, je pense que c'est vraiment, ça va éventuellement devenir nos outcomes primaires, parce que c'est vraiment ça qu'on veut savoir, en fait.
Absolument, absolument.
Donc, les patients, encore une fois, ceux qui ont survécu, qui ont reçu l'épinéphrine, il y avait seulement 69% des patients qui avaient un bon devenir neurologique, alors que chez ceux qui avaient survécu et qui avaient reçu le placebo, on atteignait 82% des patients avaient un bon devenir neurologique. Donc, l'autre façon de l'imager, puis c'est vraiment, j'ai un peu utilisé une pyramide inversée, là. Je vous mettrai la diapositive dans les notes, c'est vraiment plus parlant, on dirait, quand on le voit comme ça. Donc, si on, par exemple, on prend 1000 arrêts cardiaques préhospitaliers, puis on leur donne à ces 1000 personnes-là de l'épinéphrine. En faisant ça, on va réussir à atteindre 246 ROSC de plus. Sur ces 246 ROSC-là, on va réussir à admettre 158 personnes de plus à l'urgence. Puis parmi ces 158 admissions-là à l'urgence qu'on va gérer, on va réussir à obtenir 8 survivants de plus. Sur ces 8 survivants-là, il va y avoir 5 qui vont avoir un devenir neuro considéré capote, donc mauvais si on veut. Et il va y en avoir seulement 3 qui vont avoir un bon devenir neurologique, donc qui vont réussir à sortir de l'hôpital en marchant par eux-mêmes, mais qui vont avoir besoin d'aide pour faire d'autres activités ou en ayant un meilleur outcome que ça.
C'est quand même des chiffres impressionnants. On va y revenir un peu plus tard, mais juste avant de leur parler de ces chiffres-là, j'aimerais ça discuter parce que j'ai remarqué que dans le protocole, les ambulanciers donnaient 1 mg d'épi ou de placebo aux 3 à 5 minutes jusqu'à l'arrivée à l'urgence. Alors, ça veut dire qu'il y en a qui devaient recevoir des très grandes quantités, surtout ceux qui étaient peut-être plus loin de l'hôpital. Ça ressemble à quoi les doses d'épinéphrine totale que les patients recevaient?
Donc, effectivement, j'ai été voir, mais ça, il faut aller voir dans le matériel supplémentaire. C'est pas directement écrit dans l'étude, mais en moyenne, donc vraiment une moyenne, les gens ont reçu 5 doses du placebo ou de l'épinéphrine. Donc, effectivement, c'est quand même beaucoup. Puis, je précise, 5 doses en préhospitalier. Donc ça inclut pas nécessairement ce que les patients peuvent avoir reçu à l'urgence, parce que ça, ils l'ont pas noté, par contre, ils l'ont pas écrit. Donc, effectivement, c'est quand même plusieurs doses, puis peut-être que ça a influencé les résultats au niveau du devenir neurologique, là. On a effectivement, j'ai essayé de voir si on avait d'autres données sur l'impact que peut avoir le nombre de doses sur les outcomes des patients. Puis on a une étude que je vous mettrai aussi dans les notes, qui est une étude rétrospective d'un registre japonais, qui a montré qu'à chaque fois qu'on donne une dose de plus d'épinéphrine, le outcome neuro le diminue assez drastiquement. Donc si on donne une dose, on a 4,8% de survie avec un neuro intact, alors que 3 doses, il y avait 1,7% de patients qui avaient un bon devenir, qui avaient une survie avec un bon devenir neuro.
C'est quand même des chiffres impressionnants, mais il y a probablement des biais là-dedans, hein, j'imagine,
oui,
là, à ce niveau-là, parce que plus on en donne, plus ils sont malades, moins ils survivent. Là.
Exactement, il y a un gros biais de sélection, ça c'est certain.
Ouais. Alors donc, si je comprends bien, Paramedic 2 est un peu à l'image des autres études que tu nous as parlé tantôt. Donc les patients qui recevaient l'épi aux 3 à 5 minutes, ben, il y avait un plus gros taux de ROSC. Il y avait plus d'admissions à l'urgence, mais il n'y avait pas plus de survivants neuro avec un neuro intact, finalement. Et même qu'on aurait pu voir que trop d'épi aurait peut-être un effet nuisible au niveau neuro. Donc, ça va un peu dans la même veine que les autres études avant.
Oui, effectivement. Effectivement, ça vient un peu confirmer ce qu'on savait, qu'on se doutait déjà. Puis, en fait, je pense que si on me demande c'est quoi que ça a comme influence sur la pratique, malheureusement, c'est un peu dur à dire. Ça dépend beaucoup. C'est un débat un peu... On rentre dans le débat philosophique. Mais en réalité, je pense que pour les praticiens, ça va beaucoup les conforter dans leur pratique. Dans le sens que quelqu'un qui est très pro-épinéphrine va dire, ben écoute, moi, ça me confirme que j'admets plus, que je sauve plus de patients. Parce qu'il y avait quand même plusieurs résultats en outcome primaire qui étaient positifs dans l'étude Paramedic 2. Alors que d'autres qui vont dire, ben écoute, moi, j'étais déjà contre les pis, je pense que c'est pas bon pour les cerveaux. Puis, effectivement, l'étude vient démontrer aussi que ceux qui ont reçu les pis, on semble avoir des moins bons devenirs neurologiques. Puis, on n'a pas de différence au niveau de la nombre de survie avec un devenir neuro intact. Donc, je pense que ça peut, c'est une étude qui peut être appelée à être interprétée, puis à utiliser un peu selon nos croyances, malheureusement. Mais je pense que surtout ce qu'on peut retenir de cette étude-là, c'est que peut-être qu'on ne donne pas la bonne dose d'épinéphrine en arrêt cardiaque. Peut-être qu'on ne donne pas la bonne façon. Mm-hmm. Peut-être qu'il faudrait favoriser des perfusions d'épinéphrine au lieu de donner des bolus de 1 mg. Quand on y pense, c'est énorme, 1 mg. Là, on ne serait jamais à l'aise de donner 1 mg à un patient qui aurait un pouls. Donc, c'est ça. Donc, ça vient ouvrir une porte, en fait, sur les multiples autres études ou questionnements qu'on pourrait avoir. Peut-être qu'on devrait utiliser une autre amine, en fait. C'est plein, c'est ça. Je pense que ça vient juste permettre aux chercheurs de faire des études là-dessus, puis de plus avoir des études qui sont arrêtées à cause de raisons politiques, comme quoi c'est pas éthique de le faire. Parce que finalement, peut-être que notre pratique est nuisible plus que d'autres choses.
Oui, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment un bon point d'ouvrir ça, parce que comme tu as dit, la dose, la fréquence, le mode d'administration, ça a été très peu utilisé. À une époque, on utilisait de la vasopressine per code, ça a été abandonné. Moi, je reviens à ce qu'on disait tantôt quand tu parlais de ta pyramide inversée. Puis ta pyramide inversée, on va la mettre là, dans les notes parce qu'elle est vraiment intéressante. Moi, quand je regarde les chiffres de la pyramide inversée, ça me fait faire un débat philosophique dans ma tête automatiquement. Alors, je rappelle un peu, là, donc c'est 1000 arrêts cardiaques, 158 admissions de plus à l'urgence. Et sur les 158 admissions de plus à l'urgence, il y en a 8 qui vont se rendre aux soins intensifs. Et sur ces 8 aux soins intensifs-là, il y en a 3 qui vont retourner à la maison. Donc, c'est comme 3 survivants avec un intact neuro pour 1000 patients. Tantôt, tu l'as dit, le NNT de l'étude officielle est de 112, mais en évaluant le outcome primaire de survie. Moi, je vois un NNT de 333 pour un outcome neuro, qui était l'outcome secondaire. Donc, pour 1000 patients en arrêt cardiaque traités, il y en a 3 qui vont venir là. Donc, ça nous fait un 333. Il y a des gens qui vont se dire, ben, c'est rien, c'est parfait, allons-y, sauvons-les tous. Codons-les tous, donnez des pieds à tout le monde, parce que 3, c'est 3. C'est 3 personnes qui seraient peut-être pas sauvées. Il y en a d'autres qui vont dire, oui, mais là, c'est 158 admissions de plus à l'urgence. 8 patients de plus aux soins intensifs, c'est des frais énormes pour la société.
Exact.
Et là, ça dépend des systèmes de santé, où est-ce qu'on est. Pour nous, au Canada, au Québec, c'est peu véhiculé, c'est peu réfléchi, parce qu'on code tout le monde, ou presque, à part ceux qui n'ont pas de niveau de soins à ce niveau-là, mais pour les autres, on les code. Donc, moi, ça me fait dire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis ces 8 patients de plus là aux soins intensifs, ils vont prendre des frais, ils vont prendre des lits, ils vont prendre des ressources humaines. Alors, c'est toutes ces questions-là. Alors,
c'est beaucoup de détresse pour les familles aussi.
Exactement. Puis ces patients-là peuvent rester des semaines, des mois aux soins intensifs avant de te débrancher ou retourner à la vie tous les jours, et sans compter toute la réhabilitation qui vient avec ça. Mm-hmm. Alors, c'est pour ça que je disais que ça me donnait une réflexion philosophique. Puis on va s'arrêter là-dessus parce que c'est exactement ça que je voulais qu'on fasse aujourd'hui, de reviser un peu toute l'épinéphrine en préhospitalier. Merci beaucoup, Ariane.
Merci.
C'était vraiment intéressant.
Merci.
Alors, pour ceux qui auraient apprécié ce balado-là, n'hésitez pas à le partager à tous vos collègues et amis qui font des soins critiques et des soins intensifs. Comme d'habitude, vous allez pouvoir nous retrouver sur Facebook, Twitter. Ces balados-là vont être disponibles sur toutes les plateformes habituelles, Google Podcasts, Apple Podcasts, Balado Québec. Alors, n'hésitez pas à le partager. On se revoit pour un prochain épisode. Merci.
L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.